Voilà, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas prêché. Faut que je reprenne l'habitude. Qui d'entre vous est déjà allé dans un cinéma 4D? 4D, je m'explique peut-être ce que c'est. Tout le monde n'est peut-être pas au clair. C'est un cinéma en quatre dimensions. C'est-à-dire que le spectateur y ressent ce qui se passe dans le film. S'il y a par exemple, s'il y a du vent, le spectateur peut ressentir qu'il y a du vent. Et il y a même certains cinémas où les sièges bougent. Qui a déjà pu vivre cette expérience cinéma 4D? Plusieurs d'entre vous. Donc vous, bon, ma description est juste, n'est-ce pas? Que j'ai été au cinéma 4D, c'était à Legoland, donc c'était encore un cadre un petit peu particulier. J'étais immergé dans le monde des Lego. Mais ce cinéma 4D a quelque chose d'intéressant. C'est que finalement, on n'est plus seulement spectateur de ce qui se passe devant, du film qui est projeté, mais on est pleinement acteur aussi, on participe à l'action. Les sièges bougent, comme je l'ai dit, il y a du vent. Bref, on ressent ce qui se passe. Et cette année, j'aimerais vous proposer une prédication en quatre dimensions sur deux événements marquants. L'Ascension et la Pentecôte. Alors aujourd'hui, je vous rassure, c'est un échauffement pour dimanche prochain. Si vous n'appréciez pas cette prédication, prévoyez quelque chose le week-end prochain. Mais nous vivrons deux dimanches en quatre dimensions où nous serons, c'est-à-dire pas pleinement seulement spectateurs, mais on sera acteurs aussi de ce qui se passe dans la prédication. Et notamment dans le texte biblique. Ceci étant dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à les déverrouiller et à ouvrir au chapitre 1 des Actes. J'apprécie Camille que tu aies lu la fin de Luc. Eh bien, on reprend au début des Actes où à nouveau le récit de l'Ascension est mentionné. Acte 1, les versets 4 à 11. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit Jésus, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'il le regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. C'est intéressant, dans ces versets, on voit qu'il y a un malentendu entre les disciples et puis Jésus. Et puis j'articulerai ce message en trois points. C'est finalement qu'est-ce que les disciples croient être, ce que Jésus dit qu'ils sont, et finalement qu'est-ce que l'ascension, qu'est-ce que le fait que Jésus soit monté au ciel vient changer dans tout cela. Et ce premier point, qu'est-ce que les disciples croient être, nous montre bien ce malentendu qu'il y a. Il ne consiste pas seulement dans leur cahier des charges, mais dans leur identité de disciples de Jésus. Qui sont-ils, ces disciples? Qui sont-ils en tant que disciples du Christ? D'après leur compréhension, ils seront les agents de la restauration du royaume d'Israël. Ils seront ceux qui libéreront le peuple de Dieu du joug romain. Regardons au verset 6, lorsqu'ils disent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ses disciples projettent leur rêve, leur idéal sur ce que Jésus devrait faire. Ils n'ont finalement pas encore saisi tout l'enjeu de sa venue sur terre, ni même sa portée. On arrive à la fin du ministère de Jésus, alors forcément maintenant il va rétablir le royaume d'Israël. Il y a ce malentendu. Et certainement qu'on pourrait blâmer ses disciples en disant « mais ils n'ont toujours rien compris, après tout ce qu'ils ont vécu ». Mais étonnamment, on peut se retrouver dans la même situation qu'eux. On parle souvent que notre monde évolue, change, des changements pas toujours très, très heureux, des questionnements. On a une société qu'on pourrait qualifier en perte de repères. On pourrait voir aussi une décadence, tout dépend de comment on se place, si on est plutôt pessimiste ou optimiste. Les optimistes voient aussi qu'il y a, voilà, il y a la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de meilleur reparte. Ce qui est sûr, c'est que notre monde vit quand même un virage. Il tourne la page de 16 siècles de chrétienté. 1600 ans de civilisation chrétienne marquée par les valeurs de l'Évangile. On est en train de tourner cette page depuis bien quelques années déjà, mais une civilisation ne se change pas du jour au lendemain. Et peut-être en tant que chrétien, on est encore dans ce passé où on dit « mais il faut restaurer à tout prix la chrétienté, il faut à tout prix que notre civilisation reste ou redevienne chrétienne ». Et peut-être que nous avons tendance à coûte que coûte vouloir sauver notre civilisation. Je crois que notre combat en tant que chrétien, ce n'est pas de restaurer une civilisation chrétienne, de s'accrocher à notre héritage, puis à dire « mais il faut maintenant que le monde politique redevienne chrétien ». Il y a différents livres qui nous parlent de ça. Mais peut-être que pour nous, en tant que chrétiens, c'est une nouvelle manière, comme les disciples, de se dire « mais qu'est-ce que Jésus attend de nous ?» Et peut-être comme les disciples attendaient la restauration du royaume d'Israël, on attend que Jésus restaure finalement notre nation chrétienne. Et la réponse de Jésus, elle ne dit pas « oui, vous avez raison, je vais restaurer le royaume d'Israël, je vais restaurer un Occident chrétien ». Il dit finalement, comme Michel nous l'a dit la semaine passée, ce qui se passe dehors dans la société, ça appartient à Dieu. Mais nous, concentrons-nous sur ce qui se vit dans l'Église, sur ce qui se passe entre nous. Et au lieu de donner une réponse à ses disciples, Jésus affirme qui ils sont, il leur donne une identité. Ce n'est pas aux disciples de restaurer le royaume d'Israël. Ce n'est pas à nous de restaurer une nation chrétienne. Jésus leur annonce pleinement leur identité de disciples au verset 8, dans ce verset bien connu qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Voilà l'identité que Jésus donne à ses disciples. Ce n'est pas un impératif où Jésus leur dit « bon, ben maintenant que je m'en vais, allez dans toutes les nations ». C'est le cas chez Matthieu, mais chez Luc, dans le récit des Actes, c'est un futur, c'est plutôt une conséquence de ce qui précède. « Parce que vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins ». Être témoin, ce n'est pas une option qu'on choisit pour upgrader notre relation avec Dieu, mais c'est une conséquence de la réception du Saint-Esprit. Et on reviendra sur ce don de l'Esprit la semaine prochaine, lorsqu'on célébrera Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire être témoin du Christ? Comment est-ce que les disciples comprennent cela? On peut reconnaître que Jésus aurait pu être plus explicite. Si j'avais été un disciple, j'aurais certainement posé cette question à Jésus. « Ok, d'accord, être témoin, c'est bien. On est au début de quelque chose qui est en train de se passer. Je ne comprends pas tout. Comment faire? Quelle est ta stratégie, Jésus? Dis-moi comment faire, puis je l'applique. C'est bon. » N'est-ce pas? Vous auriez ces mêmes questions aussi? Certainement. Elles sont certainement légitimes, elles ont leur place. Mais ces questions parlent de comment faire. Alors que Jésus dit « vous serez mes témoins ». Il utilise le verbe « être ». Ce n'est pas une manière de faire. C'est là l'identité du disciple. Identité qui est commune à toutes celles et ceux qui croient en Christ. Vous êtes mes témoins. Jésus ne répond pas ici à la question « comment faire ?». Ce n'est pas une stratégie qu'il donne, mais c'est une identité qu'il dépose dans ses disciples et en nous aussi par extension. Alors on a vu comment les disciples se définissaient en tant que sauveurs d'Israël. Et finalement, Jésus est en train de redresser la barre. Il leur donne une nouvelle identité. Finalement, en fait, vous serez mes témoins. Et maintenant, on va aborder ce troisième point. En quoi l'ascension de Jésus va donner du sens à leur mission? Parce que ce que Jésus fait, c'est qu'il donne une mission, une identité à ses disciples. Mais ce qui va se passer ensuite, son ascension va pleinement expliciter ce rôle de témoin. L'ascension de Jésus va lever les derniers doutes pour les disciples. Les témoignages de l'ascension sont peu nombreux. Luc ne mentionne quelques éléments factuels dans sa narration à la fin de l'Évangile, aussi dans les Actes. Quelques versets sont consacrés à cet événement majeur. Mais la suite du Nouveau Testament, les Actes et les Épîtres montrent à quel point cet événement est marquant. Et j'aimerais relever quatre points. Le fait que Jésus soit monté au ciel, on peut dire que Jésus règne auprès de Dieu le Père. Jésus est monté au ciel. Ce terme est utilisé trois fois par Luc en deux versets, entre les versets 10 et 11. Jésus est monté au ciel. Cela implique que Jésus règne aux côtés de Dieu. Luc mentionne aussi la présence de la nuée. La nuée qui est significative dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, cette nuée manifestait la présence de Dieu qui guidait le peuple d'Israël lorsqu'il séjournait dans le désert. Plus tard, cette nuée manifestait la présence de Dieu dans le tabernacle. Ici, assurément, si Luc mentionne cette nuée, c'est qu'elle a, elle indique le caractère divin et tout-puissant de Jésus-Christ. Cette nuée nous renvoie aussi à une vision que le prophète Daniel a eue, Daniel 7, versets 13 à 14, où il est dit « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Quand on parle de la nuée, les disciples ont certainement eu ce réflexe d'aller voir ce texte de Daniel. Le royaume de Christ n'aura jamais de fin et ne sera jamais détruit. Ce règne, Pierre va le relever quelques temps après au chapitre 2 des Actes, où il est dit que la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Christ est Seigneur des Messie. Voilà une première conséquence de l'ascension. Deuxième point, l'ascension annonce le retour de Jésus. Christ reviendra. Le verset 11 nous le dit par la bouche des anges, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui était enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et pour ce point-là, la nuée a aussi toute son importance. Si la nuée est le marqueur clé du départ de Jésus, dans le Nouveau Testament, elle est aussi l'emblème de son retour. Ainsi, Jean nous dit en Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. » Oui, Jésus revient. Aussi sûr qu'il est monté au ciel, aussi sûr que Jésus reviendra. Il reviendra pour accomplir pleinement le salut qu'il a acquis à la croix. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus reviendra accomplir parfaitement son œuvre. Troisième point, l'ascension perce la barrière entre le ciel et la terre. Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, représente la race humaine devant Dieu, le Père. L'ascension ouvre la barrière entre le ciel et la terre. Le monde de Dieu et le monde terrestre sont réunis, sont connectés d'une manière qu'il n'y avait jamais eu encore dans la Bible. Est-ce que vous avez remarqué que les anges jouent un rôle assez limité dans l'évangile de Luc? On le retrouve à la naissance de Jésus. Il y a un ange qui annonce la naissance de Jésus à Marie. On les retrouve au début. Puis on le retrouve aussi à la fin, à la résurrection. Peut-être qu'il y a encore un ange qui apparaît à Gethsémané, mais quand j'ai commencé à creuser ce passage, tous mes commentateurs m'ont dit « Attention, ce passage n'est pas très sûr, il y a des variantes textuelles, etc. » Bref, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'anges dans l'évangile de Luc. Et quand on prend le livre des Actes, tout d'un coup, il y a des anges qui apparaissent. L'activité des anges est frappante. Je n'ai pas encore fini la lecture du livre des Actes, mais j'ai lu les 12 premiers chapitres et j'ai relevé 6 apparitions angéliques. C'est bien plus que dans l'Évangile. En plus des anges, il y a aussi une abondante activité du Saint-Esprit. L'Église grandit, il y a des délivrances, des miracles. Et je ne peux que vous encourager à relire ce livre des Actes, qui est magnifique, on voit l'action de l'Esprit. Oui, l'ascension, parce que Jésus est monté au ciel, cela permet finalement au ciel d'envahir la terre d'une manière sans précédent dans l'histoire de la Bible. Quatrième et dernier point, la position de Jésus au ciel nous permet d'approcher avec confiance le trône de la grâce. Il nous représente, il représente la race humaine devant Dieu. Et Jésus est la source sûre et certaine du salut. L'Épître aux Hébreux le dit, il est parfaitement qualifié. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On peut aussi lire dans cette même épître que Jésus intercède pour nous. Jésus est là, il nous aide lorsque nous sommes tentés de pécher ou de renoncer à notre foi. Jésus comprend nos faiblesses et nous secourt avec compassion. C'est aussi des éléments tirés de l'Épître aux Hébreux. Quand Jésus est monté au ciel, il n'est pas absent en disant « c'est bon, j'ai fait le job, débrouillez-vous ». Il représente la race humaine auprès de Dieu, il intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Et par Jésus, nous sommes assurés d'être accueillis par Dieu et nous sommes encouragés à lui faire confiance pour transformer notre vie, pour la vivre comme Dieu nous appelle à la vivre. Voilà ce que ce récit de l'Ascension nous dit. Voilà ces quelques lignes dans les Actes nous disent sur l'Ascension et certainement que les disciples l'ont compris petit à petit. Et quand ils l'ont compris, ils se sont dit, ben ça y est. On comprend, on est témoin de ces bonnes nouvelles, de ces 4 bonnes nouvelles. Et encore, ma liste n'est pas exhaustive, mais je ne voulais pas avoir un temps de prédication trop long pour vous épargner cela. Les disciples sont témoins de ces 4 bonnes nouvelles. On peut s'approcher avec confiance de Christ. L'ascension perce la barrière entre le ciel et la terre. L'ascension annonce le retour de Christ. Jésus reviendra et Jésus règne pleinement auprès de Dieu. Les disciples sont témoins de ces quatre faits sur l'ascension. Et comme l'a dit un commentateur que j'avais apprécié, mais j'ai oublié la référence, il dit « Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un ». En tant que chrétien, c'est vrai qu'on n'attend pas que quelque chose se passe dans notre monde, mais on attend quelqu'un. Et ce quelqu'un va revenir. Et en attendant qu'il revienne, il nous donne cette identité, vous serez témoins. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples après l'ascension? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés joyeux, on l'a lu, voilà, au moins quelqu'un qui écoute. Merci Rémi. Non, c'est pas vrai. Ils sont rentrés tout joyeux, effectivement. Mais ils ont aussi attendu la venue du Saint-Esprit. La suite du passage des Actes nous dit, ça indique même qu'ils se rassemblaient et ils priaient. Je vous ai proposé de vivre une prédication en quatre dimensions. Comme dans un cinéma 4D. Jusque-là, je vous ai parlé du texte des Actes. Maintenant, j'aimerais vous mettre en action et vous défier pour cette semaine à venir de vivre comme les disciples ont vécu cette semaine entre l'Ascension et Pentecôte, c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient pour prier, ils étaient joyeux, ils chantaient des louanges à Dieu. Et c'est là le défi que j'aimerais vous lancer pour cette semaine, de pouvoir prier, de pouvoir nous réunir, de pouvoir simplement partager entre nous la bonne nouvelle qui nous rassemble. Que cette semaine, ce récit des Actes puisse nous habiter, qu'on puisse se dire, effectivement, on est entre l'ascension où Jésus est monté au ciel et le moment où il reviendra. Peut-être je vous encouragerais et je vous défierais à prier aussi pour notre témoignage, cette nouvelle identité que les disciples ont reçue, nous sommes témoins, et qu'on puisse prier, dire, mais Seigneur, voilà, j'ai cette identité de témoin. Comment est-ce que tu aimerais que je l'habite? Comment est-ce que tu aimerais que je vive cette identité que tu m'as donnée? Voilà ce que je vous invite à faire pour vivre une prédication 4D durant toute la semaine qui s'étend. Simplement de vivre comme les disciples, peut-être un petit peu caché cette fois-ci, mais peut-être je vous donne le teaser pour dimanche prochain, comme ça vous êtes avertis. La Pentecôte marque le début du témoignage des disciples, avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand on parle de témoignage, je vous inviterai à nouveau à vivre une prédication en quatre dimensions. Et une belle surprise vous attendra dimanche prochain. Mais en attendant, comme les disciples, durant cette semaine, intercédons, prions, rassemblons-nous si on en a l'occasion. Et dimanche prochain, on se retrouve pour la Pentecôte, qui marquera le début de quelque chose de nouveau, de l'ère de l'Église, et nous vivrons à nouveau cette prédication en quatre dimensions. Ce ne sera peut-être pas aussi tranquille que ça l'est maintenant. Amen.